France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, quand la réalité rattrape la télé-réalité. Le 9 mars 2015, en Argentine, deux hélicoptères se percutent. Ce double crash fait 10 morts, dont 8 Français. L'accident a lieu en plein tournage d'un jeu d'aventure inédit censé être diffusé sur TF1 et produit par Adventure Line Productions, intitulé Dropped. Le concept est simple. 8 compétiteurs sont lâchés en équipe en pleine nature et doivent retrouver la civilisation. Adventure Line a vu grand avec son budget à 2,5 millions d'euros pour cette première saison. Les candidats sont tous des athlètes français de haut niveau. Dans les deux hélicos, 5 membres de l'équipe de production, 2 pilotes argentins et 3 grands sportifs, Camille Muffat, Florence Artaud et Alexis Vastine. Pourquoi l'un des deux appareils, censé filmer l'autre, a-t-il effectué un virage sur la gauche non prévu ? Ce que raconte cette tragédie, c'est à quel point la chasse aux images peut aller loin, trop loin, jusqu'au drame. Nos invités aujourd'hui, Valérie Guinard, présidente de l'Association des familles des victimes de Dropped, dont le mari, Volodia Guinard, a perdu la vie au moment du crash. À ses côtés, maître Solène Le Tutour, avocate de cette même association. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Constance Villanova, coordination Franck Cognard. Chargée de programme Rebecca Donnante, réalisation Stéphane Combe.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles. Sur France Inter.
Mars 2015, plaine de la Rioja en Argentine. Blotti au pied de la cordillère des Andes, Villa Castelli, un village de 1200 habitants, aride et sableux, où tout se teint d'une poussière ocre balayée par les vents. Il est 16h ce jour-là. Des voisins se retrouvent pour un barbecue aux abords d'un terrain de foot en terre battue. Derrière les cages, sans filet, se dessine le sommet enneigé du Cerro General Belgrano qui culmine à 6250 mètres d'altitude. Cela dit là, la chaleur est écrasante. Les pieds des chaises en plastique se plient sous les corps affalés. En sirotant un maté, les pères de famille surveillent la viande qui cuit sur un grill rouillé. À quelques centaines de mètres, deux hélicoptères blancs surgissent derrière les arbres secs. Ils survolent les maisons du village. L'un des habitants s'empare de son téléphone portable pour filmer la scène. On veut garder un souvenir du spectacle et de cette journée pas comme les autres. Il faut dire que, depuis ce matin, c'est l'effervescence à Villa Castelli. C'est même franchement la fête. Une équipe de télé française est venue installer son camp de base pour un jeu d'aventure qui devra être diffusé sur TF1. Les candidats qui forment les deux équipes sont tous de grands sportifs mondialement connus. L'émission s'appelle Dropped et elle est produite par un mastodonte de l'audiovisuel Adventure Line Productions. Et les règles qu'elle impose en interne, dans leur version définitive en février 2015, sont les suivantes.
Deux équipes sont déposées en hélicoptère au milieu de nulle part, les yeux bandés. Leur but, être les premiers à rejoindre un point de civilisation pour brancher le téléphone satellite et contacter l'animateur. L'animateur suivra la progression des deux équipes depuis le camp de base. L'équipe qui remporte la course se qualifie au complet pour la destination suivante. Les membres de l'équipe perdante doivent s'affronter dans une série d'épreuves individuelles de qualification. Le concurrent qui perd le duel final est éliminé du jeu.
L'émission s'appelle donc Dropped, qui veut dire lâcher ou abandonner en anglais. Car les participants seront jetés en pleine nature. Pour animer l'émission, la prod parie sur le monsieur météo de TF1, Louis Botta. Adventure Line, à l'origine d'autres jeux, comme Koh-Lanta, par exemple, propose un casting en or. Et au sens propre, 8 candidats, tous champions. D'un côté les rouges, avec le nageur champion du monde Alain Bernard, le patineur Philippe Candeloro, la coureuse cycliste aux 59 titres, Jeannie Longo, et la championne du monde de freeride, Anne-Fleur Marxer. De l'autre, les bleus, avec la navigatrice Florence Artaud, première femme au monde à remporter la route du Rhum en solitaire, la jeune nageuse Camille Muffat, médaillée olympique, le boxeur médaillé de bronze au JO Alexis Vastine, et le footballeur international Sylvain Wiltord, champion d'Europe avec l'équipe de France en 2000. Donc des athlètes de haut niveau pour une compétition hors normes. Et à l'horizon, bien sûr, des audiences massives. La première étape s'est déroulée il y a quelques jours en terre de feu, dans la partie de la plus au sud de l'Argentine. Du 2 au 5 mars, les 8 compétiteurs ont été droppés en hélicoptère à Ushuaia. Deux nuits à la belle étoile, 17 km de marche par jour, avec barda lourd comme un cheval mort. Chez les Bleus, c'est Florence Artaud qui porte le téléphone satellite à brancher, une fois une prise de courant trouvée, bien sûr. Et chez les Rouges, c'est Jenny Longo. Les Rouges, rebaptisés les Red Carpets, autrement dit les tapis rouges, sont les plus rapides à retrouver la civilisation. Les Bleus, renommés Blue Diamonds, diamants bleus, une trouvaille de la navigatrice, sont à la traîne et doivent éliminer un membre de leur équipe. C'est Sylvain Wiltord qui quitte l'aventure. Il rentre en France dès le lendemain. Les rushs de ce premier épisode ne serviront donc jamais. Pour les autres, direction les Andes avec en ligne de mire la deuxième étape est donc Villa Castelli, où la production a établi son camp de base. Un terrain vague sert d'héliport de fortune. Avant le départ, candidats et équipe de prod logent à l'hôtel. Pieds nus sur les terrasses en tomettes, les apéros s'étirent dans la nuit chaude. Le 9 mars, pour lancer la deuxième épreuve, chaque équipe doit embarquer dans deux hélicoptères qui les déposeront à Quebrada de El Yeso, à quelques kilomètres de là. Un hélicoptère technique doit filmer l'autre. Ce vol en formation donnera lieu à des images sensationnelles. Et pourquoi pas un plan de la silhouette de l'hélicoptère qui se détache sur la cordillère des Andes, par exemple. Un type d'image qu'on retrouve dans l'émission suédoise dont dérive Dropped. ALP, la production, a racheté les droits de ce jeu. La bande-annonce, doublée en anglais, donne le ton.
In this ultimate race of endurance and survival to reach civilization. Over this action-packed series, both teams will compete across the toughest terrain. Their only goal, to reach civilization first.
They go, go ahead!
With no food, no map, and no help.
Pour cette deuxième épreuve, les Rouges seront les premiers à s'envoler. Ce sont deux pilotes argentins qui doivent manœuvrer la paire d'hélicos. Le modèle des écureuils 350B3. Ils devront effectuer de boucles en formation. Le premier pilote, Juan Carlos Castillo, est arrivé la veille, le 8 mars, et il a rejoint l'équipe d'ALP dans son hôtel, à une demi-heure de l'héliport. C'est là-bas qu'il a validé le nouveau plan de tournage. Mais le jour J, les heures s'allongent, la météo n'est pas bonne, le retard s'étire. Sous la chaleur, le temps se fait interminable. Castillo étend un hamac entre deux arbres et fait la sieste. À 60 ans, il a d'expérience, 6613 heures de vol au compteur. En 82, il a même fait les Malouines contre le Royaume-Uni portant les couleurs de l'armée de l'air argentine. Son corps d'ailleurs en paie le prix. Le vieux pilote argentin se déplace avec une ceinture de contention. L'autre pilote, Roberto Abate, a 56 ans et moins de bouteilles. 2238 heures de vol, dont 11 heures avec l'écureuil 350B3. Abate porte des lunettes de vue à double foyer, ce qui n'est pas courant chez les pilotes à qui on demande traditionnellement une vision impeccable. Les deux Argentins se connaissent. Le jour du décollage, ils répètent le vol à venir en déambulant sur le sol sableux. Côté candidat, pour tuer le temps, le boxeur Alexis Vastin fait quelques passes de foot avec le nageur Alain Bernard et les gamins de Villa Castelli. Il est bientôt 17h, décollage autorisé. La visibilité est assez bonne. L'équipe des Rouges reste au sol, elle sera droppée dans un second temps. Non loin, le barbecue entre voisins est allumé. L'hélico de l'équipe technique est chargé de filmer le second appareil qui transporte les candidats en plein vol. Roberto Abate, ses lunettes vissées sur le nez, s'installe au poste de pilotage situé à droite de l'écureuil immatriculé LQFJKQ. À sa gauche, Voloya Guinard, chef de projet pour Adventure Line Productions. Derrière, trois membres de la prod, la journaliste Lucie Meidalbi, le preneur de son Gilles Edouard et le caméraman Laurent Zbasnik, qui porte un harnais et qui doit profiter de la porte de l'hélico ouverte pour mieux capturer les images. Le deuxième appareil, immatriculé LQCGK, est piloté par Carlos Castillo, le sexagénaire qui a fait les Malouines. Il doit emmener les candidats à bon port. À sa gauche, l'autre caméraman, Brice Guilbert. Derrière lui, les trois champions de l'équipe bleue. Assis côte à côte, Camille Muffat derrière le pilote, à gauche. Au centre, a pris place Florence Artaud. Et à droite, Alexis Vastine. Comme pour l'épreuve à Ushuaïa, les concurrents ont les yeux bandés. Donc, ils ne savent pas où ils vont être droppés. Excitation maximale, ambiance colo de vacances. Un cliché immortalise la scène au sol. Les quatre autres sportifs de l'équipe rouge assistent au décollage. Le soleil baisse. À 16h50, autour du grill, près du terrain de foot, on voit les hélicoptères qui s'élèvent derrière les arbres. L'un des habitants de Villa Castelli dégaine son téléphone en plein barbecue. Quelques secondes plus tard, il est 16h59, quand l'un des deux hélicoptères opère un virage sur la gauche sans que l'autre ne tourne. Et c'est le crash. Un bruit d'explosion et la chute simultanée à plus de 60 mètres des deux appareils. Et puis, une boule de feu. Les images font le tour du monde. Les villageois accourent, mais les deux carcasses en flammes restent inatteignables. À leur bord, 8 Français et 2 pilotes argentins. Tous morts. Sans le savoir, Villa Castelli vient d'assister au plus grand accident mortel de la télédite réalité.
Des images impressionnantes qui montrent les deux hélicoptères se rapprochant, puis volant l'un à côté de l'autre, très près à quelques mètres, l'un un peu en dessous de l'autre, avant le terrible choc. Cette vidéo a permis de faire avancer un peu l'enquête. Deux hypothèses semblent maintenant se dégager. Luis Angulo, secrétaire de la sécurité de la province de La Rioja.
Les habitants de la zone disent avoir vu l'un des hélicoptères percuter l'autre. Les images de la vidéo confirment cette collision. On dirait que le pilote n'a pas vu l'autre appareil. Il s'est passé quelque chose dans les airs. Soit un problème avec le pilote, soit un courant d'air ascendant a poussé l'hélicoptère contre l'autre.
Onde de choc, la nouvelle déferle dans les médias. Le monde du sport est en deuil face à la mort de trois de ses champions. Camille Muffat, 25 ans. Alexis Vastine, 28 ans. Florence Artaud, 57 ans. 5 membres de l'équipe ont également péri. Laurence Vasnik, Lucie Medaibi, Volodya Guinard, Brice Guilbert et Édouard Gilles. Les deux pilotes argentins n'ont pas survécu non plus. Dans les médias, sur les plateaux de télé, des experts en aéronautique commencent déjà à émettre des hypothèses. Car enfin, comment expliquer un tel drame? Les pilotes étaient-ils assez expérimentés? La chasse aux belles images est-elle allée trop loin? Déjà, l'épineuse question du vol en formation se dessine. Les deux pilotes avaient-ils l'habitude de voler à deux? Et les distances de sécurité recommandées ont-elles été respectées? Le 10 mars, le président de la République, François Hollande, rend hommage aux trois champions qui voulaient repousser les frontières. Je reprends ces mots. Philippe Candeloro, Alain Bernard, Jeannie Longo et Anne-Flore Marxer, l'équipe rouge, celle des survivants, embarquent à Buenos Aires dans un Airbus pour rentrer en France. Pendant le vol du retour, le nageur Alain Bernard reste les yeux rivés sur l'écran de son ordi portable sur lequel il fait défiler les photos et les vidéos des 8 concurrents de Dropt. Cliché capturé pendant les premiers jours de tournage. Grâce à ces photos, dit-il, on est toujours 8. Une équipe de psychologues veille sur eux à quelques sièges de là. À leur côté, les membres de l'équipe de production qui n'avaient pas embarqué dans les deux hélicoptères, Olivier Alzire, le pilote de drone, Laurent Vu, photographe, et Julien Magne, directeur des émissions d'ALP. Sur le tarmac, accueillis par une nuée de flashs, ils ne disent aucun mot à la presse, par respect pour les familles des victimes. Des familles dévastées, tristesse. Incompréhension, mais très vite, colère, face à ce qu'elle qualifie très justement d'accident du travail. Écoutons le père d'Alexis Vastine, Alain Vastine, 57 ans, entraîneur de boxe, qui reçoit les journalistes d'Envoyé spécial dans le club qu'il a fondé. Le visage dévasté par la tristesse. Il venait de perdre un autre enfant, sa fille, dans un accident de voiture quelques mois plus tôt. Face aux caméras, il revient sur le palmarès de son cadet.
Ça, c'est le trophée de l'espoir. Ça, c'est aux Jeux Olympiques de Londres. Et toutes ces coupes, c'est les trophées qu'il a gagnés droite et à gauche. Faut pas oublier qu'Alexis, à chaque fois qu'il faisait un tournoi au niveau mondial, il finissait toujours meilleur boxeur des tournois. Ces beaux souvenirs qu'il nous a donnés, ça me fera du mal parce que je le verrai plus. J'arrive pas à m'imaginer que je le verrai plus. C'était mon petit, hein. J'ai vécu tout ce qui me restera de lui, c'est les bons souvenirs qu'il nous a donnés. En boxe, en tout, dans sa vie, il était généreux, il était inoubliable, Alexis.
Aujourd'hui, télé-réalité, drame en Argentine.
France Inter, affaires sensibles.
Mars 2015, quelques heures après le double crash, il est 22h passées. La tour TF1 brille dans la nuit, comme d'habitude. Mais à l'intérieur, l'atmosphère est sombre. C'est même la panique. Nonce Paolini, directeur général du groupe TF1, vient de recevoir un appel de la société de production ALP. À l'autre bout du fil, Franck Firmin-Guyon, le patron d'Adventure Line, lui dit « J'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. » Paolini téléphone dans la foulée à ses associés. Le drame a un goût amer, forcément, et de déjà-vu. Le 22 mars 2013, en effet, 2 ans plus tôt, sur le tournage de Koh-Lanta, émission également produite par Adventure Line et diffusée sur TF1, un candidat avait trouvé la mort au Cambodge. Gérald Baba, un jeune homme de 25 ans, crise cardiaque. 10 jours plus tard, le médecin du jeu d'aventure se suicidait. Mais revenons à la nuit du 9 au 10 mars 2015. Les équipes de TF1 débarquent dans les locaux d'ALP dans le 15e arrondissement parisien, rue de Linois. L'heure est à la communication crise. Depuis l'Argentine, les noms des victimes arrivent au compte-gouttes. Le CSA est prévenu, le Quai d'Orsay également. On appelle les familles de proches et les premiers communiqués sont publiés par la chaîne et ALP. Le 10 mars, le JT de 20h de TF1 propose une édition spéciale. En plateau, le présentateur Gilles Boulot s'entretient avec Franck Firmin-Guyon, le président d'ALP.
Il va sans dire que l'émission n'aura pas de suite et ne verra pas le jour. Est-ce que vous pensez que la justice va devoir s'emparer de tout ou partie des rushs, de ce qu'on appelle des rushs, des images qui ont été tournées ?
Bien sûr, bien sûr. Nous allons évidemment leur transmettre l'ensemble des éléments. Nous sommes en contact avec eux.
Vous, en tant que patron de cette entreprise de production, vous vous sentez, d'une certaine manière, responsable ?
C'est très dur de répondre. Moi, ce que je vois surtout, c'est un terrible accident, une catastrophe. On n'arrive pas à expliquer. Je ne sais pas pourquoi. Nous ne savons pas encore pourquoi. Et on espère que les enquêteurs vont nous le dire. Pourquoi il y a eu une déviation de trajectoire ? On ne sait pas.
Mais ce n'est pas cette interview qui fait dérailler la communication crise de la puissante première chaîne d'Europe. Pendant ce même JT, Gilles Boulot lance un duplex en direct de Villa Castelli. Les images qui suivent sont hallucinantes. On y voit Louis Baudin, ex-présentateur météo, choisi donc pour animer Draft, devant les carcasses des deux hélicoptères encore fumantes. Et derrière, on peut entendre une technicienne crier « Don't shoot the helicopter behind, please !» Ne filmez pas les hélicoptères derrière.
Vous étiez beaucoup investi dans cette aventure depuis des semaines avec ces athlètes, avec ces équipes techniques. On imagine que vous devez être ce soir dévasté.
Ah, totalement dévasté. Une histoire qui avait très très bien commencé en terre de feu. Et puis là, depuis qu'on est arrivé au nord-ouest de l'Argentine, on est ici au pied de la cordillère des Andes, eh bien c'est vrai qu'après un départ sur ce qu'on appelait la drop zone, c'est-à-dire la zone où devaient s'élancer les deux équipes, eh bien malheureusement, au moment d'emmener par hélicoptère ces deux équipages, eh bien il y a eu ce crash terrible avec les conséquences dramatiques. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvés tous aujourd'hui à l'hôtel pour la première fois parce que on a dû redescendre à pied de cette montagne durant la nuit, durant la matinée. Et c'est vrai quand on s'est tous retrouvés à l'hôtel, ben il manquait beaucoup de monde. Et ça, c'est assez terrible.
Louis Baudin, le présentateur, explique, vous venez de l'entendre, les réseaux sociaux, eux, dénoncent une scène gore, sensationnaliste. Polémique pour TF1, qui semble capitaliser sur un accident dans lequel elle pourrait être même impliquée elle-même. La course aux images ne s'arrête donc jamais. Catherine Nel, directrice de l'information de la chaîne, rejette la faute sur un prestataire extérieur présent sur place qui aurait imposé le choix du cadre. Louis Baudin et la chaîne présentent leurs excuses. 24 heures après le tragique accident, le vernis de la communication se craquelle. Les avocats de la maison de production envoient des documents à la justice. Ils veulent qu'ALP soit partie civile, autrement dit victime de l'accident, au même titre que ceux qui ont trouvé la mort, on ne recule devant rien. Côté argentin, une enquête de sécurité est ouverte par la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil. Le BEA, Bureau d'enquête et d'analyse de l'aviation française, dépêche lui aussi deux enquêteurs. Un juge fédéral argentin est aux manettes. À Paris, le parquet ouvre une enquête pour homicide involontaire confiée à la section de recherche de la gendarmerie des transports aériens. 5 gendarmes sont envoyés à Villa Castelli. Parmi eux, 3 experts légistes de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie, un service spécialisé dans l'identification de victimes de catastrophes. Car il faut identifier les corps, très abîmés et méconnaissables. Des tests ADN sont nécessaires. Très suivi en Argentine, l'affaire déclenche une autre polémique. Le Parlement de ce pays d'Amérique latine découvre en effet que l'un des deux écureuils qui a chuté était en fait un hélicoptère d'État initialement réservé aux urgences sanitaires. Il avait été loué à la société de production via une entreprise de tourisme. Scandale. Comment une société privée peut-elle mobiliser un moyen de transport réservé aux secours ? En France, on s'interroge également. Ce transport d'urgence était-il compatible avec une utilisation pour la télé ? Le 17 décembre 2015, 9 mois après le crash, le bureau argentin d'enquête publie son rapport final. Selon lui, c'est une erreur de pilotage qui serait à l'origine de l'accident.
Il n'y a aucune preuve de problème technique dans aucun des deux hélicoptères pouvant avoir contribué à l'accident. Aucun dossier de formation des pilotes pour les vols en formation comme celui qui a provoqué l'accident n'a été trouvé. Aucun signe d'incapacité d'origine médicale chez les pilotes qui aurait pu avoir une influence sur l'accident n'a été constaté. On n'a trouvé aucun registre des procédures internes délivrées par les organisations propriétaires des aéronefs sur l'entraînement spécifique aux tâches que réalisaient les équipages au cours des vols qui ont conduit à l'accident.
Dans son rapport, l'enquête argentine retrace d'abord les différentes étapes du vol. La veille, l'un des pilotes et le personnel de la production fait le point sur l'exercice à réaliser. Il était prévu d'effectuer, après le décollage, un virage à 360 degrés, puis un passage sur le lieu de décollage pour filmer depuis le sol, avant de se diriger vers le lieu où les candidats seront droppés. Le premier hélicoptère qui décolle est celui qui transporte l'équipe de tournage. Le second, dans lequel se sont installés les sportifs et un membre de l'équipe de production, s'envole quelques secondes plus tard. Il se positionne à gauche du premier. Vitesse estimée 20 mètres par seconde. Mais l'hélicoptère de l'équipe de production sur la gauche effectue un virage. Selon le rapport argentin, le pilote de l'appareil transportant les sportifs ne voit que 25% de l'autre à cause des angles morts. Le tout sans copilote. Et il n'aurait eu que 6 secondes pour réagir. 6 secondes seulement. Et c'est le drame. Les deux hélicoptères s'entrechoquent et chutent. Que s'est-il passé dans les cabines ? Pas de boîte noire obligatoire, donc aucun renseignement possible. Le BEA a tenté d'extraire des données des équipements aéronautiques, mais leur état ne l'a pas permis. Le vol avait été précédé d'un briefing, et là encore, les échanges radio n'ont pas pu être reconstitués. L'équipe au sol ne disposait pas de radio pour suivre les échanges. Alors, l'enquête argentine déroule ses hypothèses. L'hélicoptère censé filmer l'autre avait bien la porte ouverte. La pression de la cabine, la poussière et le bruit du moteur auraient pu altérer la communication entre les deux pilotes. Par ailleurs, la réglementation argentine recommande une distance de 150 mètres lors d'un vol en formation. Or, ce 9 mars, les deux hélicoptères n'étaient séparés que de 90 mètres. Autre élément, si les pilotes disposaient d'une visibilité à 10 km, le soleil, bas, a pu les aveugler. Enfin, le rapport révèle que ces hélicoptères sans copilote disposaient de double commande et que les manettes et pédales n'avaient pas été retirées. Donc, un mouvement brusque du caméraman aurait pu déclencher l'accident. Et les pilotes ne disposaient d'aucune qualification dans le domaine des vols en formation. Donc, le tournage s'est-il fait dans la précipitation, aux dépens de la sécurité, le tout pour quelques secondes d'image de plan de coupe ? Un budget serré est-il à l'origine de négligences ayant entraîné la mort de 10 personnes ? Dans une enquête édifiante et inédite, l'équipe Explore, un programme audiovisuel du journal sportif, révèle un email expédié le 2 février 2015, un mois avant le drame, par Nicolas Roussel, directeur de production chez ALP, à l'une de ses interlocutrices en Argentine.
Je sais que vous faites de votre mieux, mais nous avons maintenant besoin de réponses pour chaque ligne du budget, car nous sommes confrontés à notre service financier et nous devons estimer les coûts de production hélicoptère. Nous devons le réduire autant que possible.
Cette même enquête démontre qu'un accident d'hélicoptère a déjà eu lieu quelques jours avant la deuxième étape, pendant le tournage à Ushuaia, avec deux autres pilotes et deux autres modèles d'hélico. Nous sommes donc entre le 2 et le 5 mars. Les 8 candidats doivent s'affronter en terre de feu. La production veut que le tournage soit bouclé rapidement. Les pilotes sont sous pression. Au sol, en plein vent, les rouges, les yeux bandés, Gianni Longo, Philippe Candeloro, Alain Bernard et Anne-Flore Marxer attendent. L'un des deux experts rate son atterrissage et essaye d'éviter des membres de l'équipe au sol qui doivent se jeter au sol et ne plus bouger. Un autre drame, évité de peu. L'équipe a pu s'entretenir avec la veuve de Brice Gilbert, caméraman mort le 9 dans l'hélicoptère qui transportait les candidats. Elle raconte ses derniers échanges avec son conjoint.
Il m'a dit que les conditions de tournage étaient insupportables, qu'il n'avait pas signé pour cela, pour mourir, que les hélicoptères étaient trop chargés, que ça tanguait dans tous les sens, et qu'il avait cru qu'il allait mourir. C'est notre dernière conversation. C'est la première fois qu'il m'appelait de l'étranger lors d'une de ses missions. Il m'a dit textuellement
« Tu te rends compte, Nat ? C'est la même boîte de prod que Koh-Lanta où il y a eu des morts. Il va falloir qu'il fasse quelque chose pour notre sécurité. »
À Paris, l'information judiciaire suit son cours. Mais que c'est long. La production rejette la faute sur les pilotes et maintient que la sécurité de ses salariés était garantie. Les juges d'instruction interrogent alors tous les maillons de l'ALP mis en cause. Le responsable de la sécurité de l'aventure, le Suédois Peter Hörkberg, embauché par la maison de prod, était censé élaborer plusieurs scénarios en cas d'accident. Sa société, Expeditionary, fait du conseil pour les jeux télévisés d'aventure. Elle a travaillé notamment sur la version suédoise de Dropped. La liste est longue concernant les causes d'un accident en terre hostile. Une noyade, une hypothermie, une rencontre avec des animaux sauvages. tout sauf une collision entre les deux hélicoptères. Le militaire de carrière que vous allez entendre a été interrogé par les juges d'instruction au tribunal de grande instance de Paris le 19 janvier 2019 en tant que témoin assisté. Et voici ce qu'il déclare.
Il était nécessaire que vous procédiez à une vérification des prestataires et des équipements qui vous étaient proposés par le contact local. Est-ce exact ?
J'ai contribué bien sûr au plan logistique. Combien de personnes pour les amener à la drop zone ? Combien de temps ? Combien de porteurs, de chevaux faut-il ? J'ai contribué à cela avec mes connaissances. Encore une fois, je n'ai rien décidé.
Doit-on comprendre que vous aviez exclu du plan de sécurité que vous aviez élaboré l'hypothèse d'un accident mettant en cause l'un ou les deux hélicoptères ?
Je reconnais que je n'avais pas prévu que les deux hélicoptères disparaîtraient. Je ne pouvais pas prévoir une chose pareille. Pour expliquer notre façon de penser, à Ushuaïa, nous avons utilisé trois hélicoptères dont un était prévu pour l'évacuation sanitaire. Si ce dernier avait un problème, on utilisait le deuxième.
En février 2020, Peter Høgberg est mis en examen. En 2021, au bout de 5 ans d'instruction, et après plusieurs expertises et commissions rogatoires internationales, c'est la société ALP qui est mise en examen pour homicide involontaire, ainsi que plusieurs dirigeants de l'entreprise. Parmi eux, Nicolas Roussel, directeur de la production, et Franck Firmin-Guyon, président d'ALP. Ils sont soupçonnés, selon les juges, d'avoir fixé un budget aux moyens aériens incompatible avec les besoins du projet éditorial et des exigences de la production, je cite, et d'avoir donné des instructions aux prestataires locaux sur des critères essentiellement financiers et de ne pas s'être assuré que les cadreurs étaient correctement informés des consignes de sécurité à respecter. Ils sont présumés innocents. Devant les deux juges d'instruction, Alexia Laroche-Joubert, qui a succédé en 2016 à Franck Firmin-Guyon, se défend. À aucun moment, aucun d'entre eux n'a fait preuve de légèreté, de manque d'implication dans son travail, dit-elle. Alors, à qui la faute ? Au pilote, à la production, au système qui est la télé-réalité et qui oblige à la course permanente, au budget serré, aux images sensationnelles ? Le procès pénal, s'il a lieu, ne devrait pas se tenir avant 2025, donc 10 ans après le drame. Le 9 mars 2015, la chasse aux images a-t-elle atteint son paroxysme ? Car ce sont 10 vies qui ont été ôtées, des familles qui ont été décimées, des amis endeuillés. Toutes dénoncent une injustice lente et silencieuse, ainsi que la puissante Adventure Line, la production. Le 9 mars 2023, 8 ans après l'accident, les proches et familles de victimes mettent en ligne une vidéo où amis, mères, cousins, fils et filles défilent face caméra et tous concluent. Rien n'est oublié, je compte sur le procès.
Drifting on the waves, going with the
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, le drame de Dropt et deux invités. Valérie Guinard, bonjour.
Bonjour.
Présidente de l'Association des familles des victimes de Dropt, dont le mari, Volodia Guinard, a perdu la vie dans l'accident. Votre mari a perdu la vie dans l'accident. Et à vos côtés, Maître Solène Le Tutour, avocate de cette même association. Bonjour.
Bonjour.
Je commence avec vous, Valérie Guinard. J'aimerais que vous nous racontiez quels souvenirs vous gardez de ce 9 mars 2015, sans vouloir, bien sûr, retourner le couteau dans la plaie de la douleur.
Il y a des journées qu'on n'oublie pas, et celle-là, je ne l'ai pas oubliée.
Évidemment.
Alors j'espère que la voix ne flanchera pas pour
raconter. Mais nous sommes là, on est trois autour de cette table.
Alors déjà, on avait eu Volodia au téléphone le 9 mars, juste avant son décollage. Comme justement le décollage avait été décalé, il avait profité pour appeler les enfants, puisque comme ça, il pouvait les avoir avant le départ. Donc on avait eu une dernière conversation avec lui, qui finalement était une dernière conversation importante. Après, ce dont je me rappelle, c'est... en fait, tout simplement d'aller me coucher, de prendre comme d'habitude mon téléphone avec moi pour le mettre à charger et un SMS d'une de mes tantes qui me demandait, il y a eu un accident en Argentine sur un tournage, est-ce que Volodia y est?
Ouais.
En même temps, j'ai vu que j'avais un appel en absence, donc avec un message, et j'y ai pas prêté forcément attention, parce qu'en fait, la réponse que j'ai apportée à ma tante était de lui dire « Non, en fait, il est au Chili, donc l'Argentine, c'est fini. » En fait, pour moi, Terre de Feu, c'était l'Argentine, et là où ils étaient à La Rioja, c'était limite avec le Chili. Et puis, en envoyant ce message, j'ai un peu tout qui est venu venir à moi en disant ce message tardif n'est pas bon signe, donc j'ai écouté le message qui était un message de Franck Firmin-Guillon qui me demandait de le rappeler dès que j'avais...
Et il vous a annoncé la nouvelle, voilà.
Il m'a annoncé la nouvelle, tout à fait.
Voilà, n'allons pas plus loin pour remettre tout ça. La question que je vais préciser ma question pour le coup, est-ce qu'il vous avait parlé des préparatifs dans quel état d'esprit il y allait? Est-ce que pour lui, bon, c'était une aventure professionnelle, ça tenait debout, ou est-ce qu'il y avait des doutes?
Non, il avait des doutes. J'ai très bien souvenir de Volodia juste avant son départ, le 25 février, sur le perron de la porte, en me disant on aurait dû retarder de quelques semaines ce départ, on n'est pas prêt, ça va être la course, ça va être compliqué. Du coup, il était un peu dans cette inquiétude-là. Il y avait eu plein d'autres choses dans les préparations. En fait, il s'avère que j'ai des souvenirs de ce qui s'est passé, et j'ai aussi gardé l'ordinateur de Volodia qu'il utilisait pour le travail. Donc j'ai toujours entre les mains tous les mails d'échange qu'il avait pu avoir sur la préparation, et donc tous ces questionnements d'inquiétude sur la rapidité, les questions de budget qui ont ralenti pour moi ces questions de préparation, et puis aussi cette chose où Volodia avait à la fois l'émission de chef de projet sur l'émission, mais il était aussi journaliste. En fait, il partait sur les expéditions, donc il avait deux postes. Et c'est une des raisons pour laquelle il était dans l'hélicoptère. Il partait, donc c'était très dur pour lui, en fait.
Cette double mission, quoi.
Oui.
Solène Le Tutour, j'y pense, par ce que nous dit Valérie Guinard, les doutes de son mari avant de partir. Je pense qu'il n'était pas le seul, d'ailleurs, à avoir des doutes. Ce serait presque des pièces à verser au dossier, hein.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, ces doutes-là, ils ressortent effectivement de l'ensemble des témoignages. Mais en réalité, c'est aussi toute une organisation qui n'a pas été faite dans les règles de l'art. Naturellement, là, il y a plusieurs procédures qui sont en cours, mais une procédure civile, en tout cas, devant les TAS, les tribunaux d'affaires de sécurité sociale, qui ont donné lieu à des condamnations d'ALP en matière de faute inexcusable, puisqu'ils ont été condamnés. Alors, les décisions ne sont pas définitives, hein, puisque la Cour de cassation est saisie, en tout cas pour au moins l'un d'entre eux. Et il est manifeste que, en fait, aujourd'hui, en tout cas, ils ont été jugés fautifs parce qu'ils n'ont pas assuré la sécurité de leurs salariés.
Donc, ce qu'on attend, c'est un procès au pénal.
Alors, effectivement, il y a effectivement une autre procédure qui est la procédure pénale, qui est une procédure d'instruction, laquelle est terminée. L'instruction est terminée. On attend le réquisitoire définitif du ministère public qui doit arriver prochainement et qui, lui, va dire, hein, en fait, en tout cas, donner l'opinion du ministère public sur l'opportunité des poursuites, c'est-à-dire l'opportunité de continuer à poursuivre les personnes qui sont actuellement mises en examen et de savoir si, selon le parquet, ils doivent être jugés devant un tribunal, sachant que, sur la base de ce réquisitoire, le juge d'instruction doit prendre son ordonnance qui va renvoyer ces personnes devant le juge.
Oui.
C'est très long.
Alors, c'est le temps de la justice est un temps long. Mais alors, dites-moi, 8 ans quand même après les faits, comment vous vivez ça, Valérie Guinard, ce délai tellement long?
Alors, on nous avait prévenu dès le début de la procédure que ça serait long, mais c'est vrai que 8 ans, on ne s'attendait pas à ce que ça soit aussi long que cela. C'est d'autant plus long qu'ils étaient tous parents, en fait, d'enfants très jeunes, et qu'ils grandissent tous, et qu'on voit plus, encore plus ce temps qui s'écoule au travers des enfants qui grandissent.
Bien sûr.
Moi, j'avais ma fille qui avait 8 ans et demi, et elle sera bientôt majeure. Je ne pensais pas qu'elle serait majeure, peut-être quand on aura une fin d'instruction, ou qu'on aura peut-être un procès. Donc, c'est long parce qu'on est dans cette idée et aussi parce qu'on n'a pas pu dire au revoir à nos proches. Et donc, ça fait durer cette peine qu'on peut avoir. Ça nous empêche de ressasser, ça nous empêche en fait d'avoir, de terminer, de passer à une autre étape dans notre deuil.
Et c'est la double peine.
Voilà, la double peine.
Bien sûr, bien sûr. Alors, je pourrais vous poser la question de façon très politiquement correcte. À votre avis, qui est responsable? Je vais vous la poser de façon plus humaine. À qui en voulez-vous? En tout cas, à qui en vouliez-vous juste après le drame? Peut-être qu'avec le temps, les choses s'estompent.
Je pense que ça n'a pas changé. J'en veux toujours à la boîte de production.
Ouais.
Mais pour des choses qui sont... Bah, après, parce que des échos que j'avais eus de Volodia sur ce tournage, et voilà, et donc de cette organisation qui semblait un peu empêtrée, j'avais forcément des doutes sur la manière dont ils ont réalisé. Et puis aujourd'hui, à la lecture du dossier pénal, quand je vois en fait... L'accident est intimement lié au plan de vol. Quand on voit un plan de vol dans le dossier pénal qui est un dessin qui pourrait être un dessin d'enfant avec un tracé à main levée, où on sait que ça n'a pas été vérifié par des personnes compétentes en aéronautique, comme vous l'avez dit, ça a été décidé la veille avec juste cette question à un des pilotes s'il était possible de faire ce type de vol avec 2 virages à 180 degrés. On se dit qu'à quel moment, en tant que professionnel, on peut engager des gens dans un tel vol sans même se poser la question du danger, sans même se dire peut-être qu'il aurait fallu faire un coup d'essai avant avec juste les pilotes pour savoir si ce vol-là était réalisable.
Ouais.
Donc je ne peux pas m'empêcher en fait de mettre comme responsable la boîte de production.
Solène Le Tutour, ça représente quoi pour vous en tant qu'avocate, la défense de ce dossier?
Ben... Pour moi, c'est une affaire, si vous voulez, où on est à la fois aux confins du droit pénal en matière d'homicide involontaire et de la faute de l'employeur, en tout cas pour moi, qui représente une autre famille. Et si vous voulez, cette affaire, qui est une affaire à la fois de droit du travail, mais aussi d'accident aérien, en fait, elle est aussi... paroxystique de cette quête de l'image. L'image à tout prix que véhicule la télé-réalité depuis plusieurs années. Tout est exponentiel dans cette émission. Le lieu du tournage, dans des zones arides, très, très hostiles, des conditions de tournage, des techniciens qui doivent courir derrière des sportifs de haut niveau, avec eux, leur matériel de cadrage à prendre sur le dos, l'utilisation de plusieurs hélicoptères d'où les concurrents devaient sauter. Et puis cet hélicoptère qui est le personnage principal quasiment de l'émission et qui génère une ambiance de danger, de risque. Et comme si ça n'était pas encore assez, pas assez spectaculaire, pas assez sensationnel.
La surenchère, quoi, c'est ça.
Voilà, on en
la surenchère est responsable, en gros.
Oui, et puis l'absence de ligne directrice qui doit quand même être pour un employeur, mais aussi pour une société de production qui est aussi prospère que la société d'ALP, qui est la sécurité.
Bien sûr.
Et en fait, ces images, elles auraient très bien pu être obtenues d'une autre manière, avec d'autres technologies, mais il y a eu... Oui, peut-être une forme de mépris aussi hein, pour ces salariés qui ont quand même signé leur contrat de travail à l'aéroport.
Comment ça ?
C'est à l'aéroport qu'ils ont signé leur contrat de travail. Ouais.
Donc les choses se passent comme ça, la précipitation.
Voilà, dans la précipitation.
Il s'agit d'un accident du travail, c'est important. Qu'est-ce que cette notion implique, en l'occurrence ? Quels sont les enjeux ?
En effet, il s'agit d'un accident du travail pour 5 techniciens qui ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale. L'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable de l'employeur au sens du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Et dans cette affaire, la cour d'appel de Versailles et la cour d'appel d'Amiens ont jugé qu'ALP avait commis une faute inexcusable en ce sens que le producteur n'aurait pas dû organiser ce vol tout simplement, que si ce vol avait été indispensable, alors la production n'avait pas pris les précautions nécessaires, pas de vol d'essai, pas de moyens de communication entre les hélicoptères avec le sol, aucune compétence particulière des sociétés dites de sécurité auxquelles ALP a fait appel n'avait de compétences en matière d'aviation, et puis d'autres moyens techniques comme la gyrocaméra pouvaient être utilisés pour faire des images. Et donc, ce qui est reproché, en fait, à ALP dans ses décisions, c'est que ce producteur, qui est très prospère et omniprésent hein, sur les écrans français, c'est aussi le très grand amateurisme dans l'organisation de cette émission. Et puis, l'aveuglement. L'image a compté bien plus que la sécurité pour quelques secondes de séquences filmées qui ont valu plus que la vie des passagers.
Et la responsabilité du diffuseur de TF1. Comment la mesurer, celle-là ? Parce que, pour penser qu'elle n'est pas directement responsable, mais moralement responsable, de mettre à l'antenne des émissions qui peuvent comporter des risques. Surtout qu'il y a eu un mort pour Koh-Lanta, qui est une autre émission de TF1.
Bien, peut-être qu'il y aurait dû y avoir des audits de sécurité, hein, de la part d'abord d'ALP, hein, des audits de vérification.
Ça, c'est une production, bien sûr.
Et puis, effectivement, on pourrait envisager que celui qui diffuse se fasse en sorte que ce qui est diffusé est bien conforme aux règles de sécurité. Mais je crois que ça n'a pas été fait ni par l'un ni par l'autre.
Merci Solène de Tutour, merci Valérie Guinard. J'espère que ça n'a pas été trop difficile de reparler tout cela.
Non, ça a été. Je vous remercie.
Bon, et bien merci à vous deux. Au revoir.
Merci. Au revoir.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le crash de Drop, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Guillaume Ficheux.